annonce un accord qu'il qualifie d'historique sur le désarmement du Hamas et d'autres groupes armés de Gaza. Israël reste circonspect.
Un haut responsable américain a déclaré que Donald Trump serait très déçu si Israël ne permettait pas la mise en œuvre de son plan en 20 points pour la reconstruction de Gaza.
Israël se prépare à une possible nouvelle escalade avec l'Iran. Donald Trump pourrait décider dans les prochains jours d'étendre les opérations militaires américaines contre Téhéran.
Et enfin, en Belgique, les conditions médicales pour devenir militaire ou réserviste dans l'armée seront assouplies à partir du 1er septembre. Donald Trump annonce un accord qu'il qualifie d'historique sur le désarmement du Hamas et d'autres groupes armés de Gaza.
Donald Trump qui annonce donc en grande pompe cet accord négocié pendant plusieurs mois avec la médiation de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie. Accord qui prévoit un désarmement progressif sur une période de 6 à 8 mois. Le Hamas devrait notamment remettre les plans de ses tunnels, ses ateliers de fabrication d'armes et ses dépôts militaires. Les zones démilitarisées passeront ensuite sous le contrôle d'une nouvelle administration technocratique palestinienne. Un corps de police composé de plusieurs milliers d'agents préalablement contrôlé par Israël, doit également être déployé avec l'appui d'une force internationale. Selon Washington, le Hamas aurait accepté les grands principes du texte et son application doit commencer dans les prochaines semaines. Deux hauts responsables du Hamas ont confirmé qu'un accord avait été conclu. Ils ont toutefois indiqué attendre des médiateurs qu'ils garantissent le respect de l'accord par Israël. Plusieurs modalités essentielles du dispositif, notamment son calendrier précis et les mécanismes de vérification du désarmement, restent encore incertaines. Razi Ahmad, haut responsable du Hamas, a affirmé que le stockage des armes du Hamas serait conditionné à un retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Sur Al Jazeera, il a assuré que le Hamas ne fera pas un seul pas sans la garantie qu'Israël respectera lui aussi les engagements.
Justement, le retrait de Tsahal, lui, se fera par étapes et restera conditionné à la vérification du désarmement. L'armée israélienne devra d'abord revenir jusqu'à la ligne jaune. C'est ce qui est établi après le précédent cessez-le-feu.
En contrepartie, Israël suspendra ses frappes ciblées contre les membres du Hamas, sauf en cas de menace immédiate. Le texte prévoit également le rachat des armes individuelles. Les combattants du Hamas qui les remettront volontairement pourront recevoir une compensation financière. Les terroristes bénéficieraient par ailleurs d'une amnistie et pourraient rester à Gaza. Un vrai problème pour Israël.
Et malgré l'optimisme affiché par Donald Trump, Israël demeure très suspect face à cette nouvelle.
Oui, car plusieurs responsables craignent que le Hamas n'utilise cet accord pour gagner du temps et réduire la pression militaire et économique qui pèse aujourd'hui sur lui sans véritablement renoncer à ses armes. Jérusalem exprime aussi des réserves sur le rôle du Qatar et de la Turquie dans la supervision du processus. Israël exige le désarmement complet du Hamas, y compris le retrait des armes de Gaza et la démilitarisation totale de la bande de Gaza comme condition préalable à tout processus de retrait. Le document en question, en discussion, ne répond pas à ses exigences. Israël a fait part de ses réserves à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui est actuellement émissaire de Donald Trump dans la région. Il n'y aura pas de retrait israélien de la ligne jaune tant que le Hamas n'aura pas été désarmé, a déclaré une source au quotidien israélien, le Jerusalem Post. Il a également précisé que la question de Gaza n'avait pas du tout été abordée lors de la dernière rencontre entre le président Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Et la méfiance israélienne face à ce projet de désarmement du Hamas a confié entre autres à l'autorité palestinienne est accentuée par le fait que l'autorité palestinienne a versé des centaines de millions de shekels à plusieurs responsables du groupe terroriste impliqué dans les massacres du 7 octobre.
C'est ce que rapporte une étude publiée hier par le Centre de Jérusalem pour les Affaires étrangères et la Sécurité. Le rapport affirme que le dispositif, souvent qualifié de politique de pay for slay, payé pour tuer, ne se limite pas aux allocations accordées aux terroristes incarcérés. Il comprendrait aussi des salaires, des emplois publics et divers avantages attribués après leur libération, parfois plusieurs années, voire tout au long de leur vie. Selon les auteurs de l'étude, de nombreux terroristes libérés en 2011 dans le cadre de l'accord Gilad Shalit ont continué à recevoir des paiements et des avantages de l'autorité palestinienne après leur sortie de prison, avant de reprendre leurs activités au sein d'organisations terroristes comme le Hamas. Un haut responsable américain a déclaré que Donald Trump serait très déçu si Israël ne permettait pas la mise en œuvre de son plan 20 points pour la reconstruction de Gaza.
Oui, ce haut responsable a fait ses déclarations lors d'un point presse consacré à l'approbation par le Hamas du plan de désarmement proposé par le Conseil de la paix, chapeauté par les États-Unis. Nous ne demandons pas à Israël de faire quoi que ce soit qui ne figure pas dans le plan 20 points qu'il a initialement accepté. Et nous sommes donc convaincus qu'il s'y tiendra. S'il ne le fait pas, le président Trump serait très déçu, a prévenu ce haut responsable américain.
Et l'Iran a tenté de convaincre le Hamas de ne pas accepter la proposition de désarmement du Conseil de la paix, mais a finalement échoué.
L'Iran a bien tenté de les convaincre de ne pas conclure cet accord, mais nous avons finalement réussi à surmonter cet obstacle. C'est ce qu'a ajouté ce même responsable américain qui a confirmé ainsi les informations du site Axios sur une rencontre entre membres du Hamas et gardiens de la révolution islamique sur ce sujet lors des funérailles d'Ali Khamenei. Il a ajouté que l'amnistie proposée aux membres du groupe terroriste qui acceptent de rendre leurs armes et d'adhérer au plan en 20 points de Donald Trump constituait un argument de poids. Israël se prépare à une nouvelle escalade avec l'Iran. Selon la chaîne publique Cannes, Donald Trump pourrait décider dans les prochains jours d'étendre les opérations militaires américaines contre Téhéran.
Washington aurait prévenu Jérusalem avant la reprise des frappes les deux dernières nuits. Cette coordination intervient après la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, alors que les accords avec l'Iran et les négociations sont dans l'impasse et que l'analyse à la fois américaine et israélienne est qu'un accord n'est pas possible. Le premier ministre israélien doit désormais consulter les responsables de Tsahal et des services de sécurité. Jérusalem redoute qu'une intensification des frappes américaines n'entraîne des représailles iraniennes contre Israël et ne pousse le pays à entrer directement dans la campagne militaire. Donald Trump n'aurait pas encore tranché. Le commandement central américain lui aurait proposé 2 semaines de bombardements massifs, mais la Maison-Blanche s'inquiète du risque d'embrasement régional et du niveau limité de ses réserves de missiles intercepteurs. L'Arabie saoudite plaiderait également pour un retour au calme. De son côté, Benjamin Netanyahou aurait proposé de renforcer la pression économique sur Téhéran en frappant ses voies terrestres d'approvisionnement afin de pousser le régime des Mollahs à faire des concessions. Dans le même temps, Israël développe sa coopération sécuritaire avec les Émirats Arabes Unis. Un avion militaire émirati s'est notamment posé cette semaine sur la base israélienne de Nevatim.
Tsahal a détruit un vaste réseau de tunnels du Hezbollah dans le secteur du Beaufort, dans le sud du Liban, à l'aide d'environ 700 tonnes d'explosifs. C'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ce matin dans un communiqué conjoint.
Et selon les autorités israéliennes, cette infrastructure constitue un élément central du projet d'invasion du Hezbollah contre les localités de Galilée. Il a été construit sur plusieurs niveaux au cours des 2 dernières décennies et servait de centre de commandement à des terroristes pour coordonner les combats et les tirs contre les soldats et les civils israéliens. Il était situé à 6 km de Metula et près de la Galilée. Les galeries étaient notamment utilisées par l'unité Bader du Hezbollah. D'après l'armée israélienne, des dizaines de drones, d'engins explosifs et de missiles anti-chars ont été lancés depuis ce secteur au cours de la guerre. Les forces israéliennes en avaient pris le contrôle depuis plusieurs semaines et préparaient sa destruction. Ils attendaient juste le feu vert des politiques.
La menace des drones serait devenue l'une des principales préoccupations du directeur du Shin Bet, David Zini. C'est ce qu'affirme le journaliste Amit Segal dans une chronique publiée par Israël Hayom.
Selon lui, les services de sécurité israéliens redoutent que l'Iran, après l'affaiblissement de ses proxys dans la région, ne privilégie désormais les attaques de drones depuis le sud du Liban, mais aussi de Gaza ou de Judée-Samarie. Le scénario le plus inquiétant serait même celui d'une attaque coordonnée contre un rassemblement officiel réunissant Benjamin Netanyahou, Israël Katz ou Eyal Zamir. La réunion du gouvernement organisée cette semaine dans un lieu tenu secret illustrerait la prise en compte croissante de cette menace des drones. Pour Amit Segal, Israël doit désormais faire évaluer sa doctrine de défense. Après les roquettes et les missiles, les drones s'imposent comme un nouveau défi stratégique en raison de leur mobilité, de leur précision et de leur capacité à contourner certains systèmes d'interception. Rebecca Greenspan est bien partie pour devenir la première femme et la première juive à diriger l'ONU.
La costaricienne Rebecca Greenspan prend une longueur d'avance dans la course au poste de secrétaire générale de l'ONU. Selon les premiers résultats d'un vote informel organisé au Conseil de sécurité, elle apparaît comme la candidate la mieux placée pour succéder à Antonio Guterres, dont le second mandat s'achèvera le 31 décembre 2026. Lors de cette première consultation à bulletin secret destinée à mesurer le niveau de soutien dont bénéficient les 7 candidats en lice, Rebecca Greenspan a obtenu 10 votes d'encouragement. Elle devance l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Guyane, Caroline Rodriguez-Birquet, créditée de 9 soutiens, tandis que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, arrive en 3e position avec 7 votes favorables. Selon Reuters, Rebecca Greenspan a également recueilli un vote défavorable. C'est pourquoi nous vous posons la question du jour à laquelle vous pouvez d'ores et déjà répondre. Une femme juive à la tête des Nations Unies, cela pourrait-il changer la donne pour Israël à l'ONU? Rendez-vous sur Instagram, Facebook, X et sur la communauté WhatsApp. À New York, le mouvement End Jew Hatred a lancé une pétition demandant à la gouverneure Kathy Hochul d'engager une procédure de destitution contre le maire Zoran Mamdani.
Oui, l'organisation invoque l'article 9 de la loi de l'État sur les fonctionnaires publics et reproche au maire sa politique en matière de sécurité et de lutte contre l'antisémitisme. Une initiative qui intervient après 2 agressions au couteau commises le 23 juillet dans l'Upper West Side. La pétition accuse également Zoran Mamdani d'avoir supprimé dès son arrivée à la mairie un dispositif municipal fondé sur la définition de l'antisémitisme de l'IRA sans proposer de mesures de remplacement. Elle cite également des données de la police new-yorkaise qui fait état d'une hausse de près de 12% des crimes de haine, dont 55% auraient visé des juifs. Les militants dénoncent aussi l'utilisation des comptes officiels de la ville par Zoran Mamdani pour diffuser une vidéo qualifiant Benjamin Netanyahu de criminel de guerre et de personnes indésirables. Le maire avait ensuite reconnu ne pas disposer du pouvoir nécessaire pour faire arrêter le premier ministre israélien. La pétition évoque aussi le veto opposé à une loi de sécurité dans les écoles et plusieurs autres décisions administratives du maire contestées. Une manifestation s'est tenue devant les bureaux de Kathy Hochul pour réclamer l'ouverture de la procédure contre Zoran Mamdani. Actualité internationale, on continue. Le commandement des forces de l'OTAN en Europe a assuré hier être en contact étroit avec la Pologne après la chute d'un missile sur son territoire attribué à un tir russe lors de frappes menées contre l'Ukraine.
L'organisation a promis de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre le territoire de l'OTAN, c'est ce qu'a précisé le porte-parole du commandant suprême des forces alliées en Europe. En réaction à un missile russe de type encore inconnu qui a pénétré dans l'espace aérien polonais avant de s'écraser sur le territoire polonais, l'un de nombreux missiles tirés par la Russie contre l'Ukraine dans la nuit. L'OTAN et la Pologne ont activé leur défense aérienne et terrestre, c'est ce qu'a souligné ce porte-parole dans un communiqué.
Un Israélien d'une 30aine d'années a été poignardé sur le site du festival de musique Ozora en Hongrie.
C'est ce qu'a annoncé la police du comté de Fejér dans un message publié sur Facebook. Il a été transporté à l'hôpital en ambulance pour y recevoir des soins médicaux. La police a indiqué avoir arrêté 2 hommes soupçonnés d'agression ayant entraîné des lésions corporelles mettant la vie en danger, je cite. La police du comté de Fejér a également précisé que 3 hommes, un Belge, un Israélien et un Portugais, avaient aussi été arrêtés sur le site du festival après avoir été surpris en train de vendre de la drogue. Une procédure a été ouverte à leur encontre pour trafic de stupéfiants.
Les conditions médicales pour devenir militaire ou réserviste dans l'armée belge seront assouplies à partir du 1er septembre 2026.
La mesure devrait permettre à 10 ou 20% des candidats actuellement rejetés de commencer tout de même leur formation militaire. Selon le ministre de la Défense Théo Franken, cité dans Het Laatste Nieuws, le ministre s'attend à une augmentation du nombre de recrues à mesure que les conditions médicales deviendront moins strictes. Pour certaines fonctions, il vaut mieux être plus souple, a expliqué Théo Franken, tout en insistant sur le fait qu'il faut tout de même être en forme pour exercer la fonction. Tous les militaires ne doivent pas nécessairement répondre aux mêmes critères extrêmement stricts. Si par exemple votre vue n'est pas tout à fait parfaite, cela ne pose pas forcément de problème, à moins que vous souhaitiez devenir pilote de F-35, a décrit le ministre Théo Franken. Israël a réussi avec succès le premier essai d'un système de détection précoce des incendies reposant sur un drone autonome et l'intelligence artificielle.
L'objectif est de repérer un départ de feu quelques minutes seulement après son apparition afin de permettre une intervention rapide des secours avant que les flammes ne se propagent. Vous voyez bien à quel point c'est d'actualité après les énormes incendies qui ont ravagé la France et l'Espagne. Le projet associe le ministère de la Sécurité nationale, l'autorité israélienne de l'innovation et les services israéliens de lutte contre les incendies. Lors du premier vol d'essai effectué ce mercredi, le système est parvenu à détecter et à localiser plusieurs foyers d'incendie simulés. D'autres tests sont en cours pour évaluer ses performances dans d'autres types de terrains et de conditions, capable de décoller et d'atterrir verticalement sans piste. Ce drone est équipé de caméras de jour et de nuit, ainsi que de capteurs infrarouges lui permettant de repérer des sources de chaleur même à travers une épaisse fumée. Les images recueillies sont analysées ensuite en temps réel par des algorithmes d'intelligence artificielle capables de localiser un incendie avec une précision de quelques mètres avant de transmettre automatiquement une alerte au centre de commandement des pompiers. Les trottinettes et vélos en libre service en flotte libre devront quitter les rues de Bruxelles d'ici le 1er septembre.
Oui, une décision qui fait suite à l'annulation des licences par le Conseil d'État. C'était hier. Les trottinettes et vélos en libre service et en flotte libre couverts par les licences annulées mercredi par le Conseil d'État devront disparaître de l'espace public de la capitale d'ici le 1er septembre prochain. Le Conseil d'État a annulé les décisions d'octroi de licences de cyclopartage. La haute instance avait été saisie d'un recours introduit par la multinationale Lime, évincée du marché à Bruxelles. Concrètement, les seuls vélos partagés disponibles à Bruxelles à partir du 1er septembre seront les vélos de la ville. Une note positive, le Technion entre au top 25 mondial des universités spécialisées dans l'IA et se classe 8e pour le nombre de diplômes devenus fondateurs d'entreprises d'intelligence artificielle.
Le Technion s'impose comme le principal pôle universitaire israélien dans le domaine de l'intelligence artificielle. Selon la première édition de ce classement, l'établissement de Haïfa se classe au 25e rang mondial et au 4e rang européen pour sa capacité à former des spécialistes, produire de la recherche et favoriser la création d'entreprises liées à l'IA. Ce nouveau classement qui distingue 50 universités ne mesure pas leur prestige académique, mais leur contribution concrète au développement de l'IA. Il prend en compte les liens avec les laboratoires, la production scientifique, les infrastructures informatiques et la visibilité des établissements dans les principaux outils d'IA générative. Le Technion se distingue particulièrement dans la création de start-up. Rapporté à la taille de cette institution, sa capacité à faire émerger des entrepreneurs du secteur serait même comparable à celle de Stanford, qui est première au classement général. Et un mot de sport pour terminer vraiment ce journal. On jouait hier les tours de qualification de l'Europa League et de la Conference League.
Oui, Alice, jackpot pour les clubs belges et israéliens. En Europa League, Anderlecht s'est qualifié face aux Suédois de Hammarby, alors que le Maccabi Tel Aviv s'est lui imposé face au Moldave du Sheriff. En Conference League, la petite sœur de l'Europa League, la Gantoise, elle, s'est qualifiée face à Cherkasy et le Betar Jérusalem face à Larnaca. La Poel Tel Aviv s'est lui imposé face à Ludogorets. On verra donc toutes ces équipes belges et israéliennes au prochain tour de la compétition.